Bonjour à tous.
Bien le bonjour, mesdames et messieurs.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Voix autochtone. Je suis Valérie et j'ai le plaisir d'être accompagnée de mon collègue et ami Henri.
Nous sommes en plein dans l'émission Voix autochtone.
Exact.
Les différents autochtones qui peuplent non seulement le Canada, mais aussi les États-Unis.
Les Premières Nations canadiennes et les tribus amérindiennes.
Valérie ne sera pas avec nous en direct aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise, parce que normalement, si tout se passe bien, elle devrait y être dès la semaine prochaine. Alors, nous allons tout simplement essayer de jouer pour deux et poser et essayer de savoir combien il y aurait de communautés de Premières Nations au Canada. En fait, l'on a dénombré 630 communautés de Premières Nations qui représentent plus de 50 nations et 50 langues autochtones. Mais combien de nations autochtones il y a au Canada? Le recensement de 2021 avait permis de dénombrer 1 807 250 autochtones, ce qui représente 5% de la population totale du Canada, en hausse comparativement à 4,9% en 2016, 21 septembre 2022. Quels sont les trois peuples fondateurs du Canada? Eh bien, les peuples fondateurs du Canada comprennent les suivants. Les autochtones, les Canadiens français, les Canadiens anglais. Et quelles tribus indiennes au Canada? Ah, voilà, parmi ces peuples, certains auraient rejoint le continent en traversant le détroit de Bering à partir de la Sibérie orientale en Asie pour se rendre en Alaska. Le gouvernement du Canada reconnaît trois groupes d'autochtones, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Quelles sont les 13 nations autochtones du Québec? Ils comprennent les Abénakis, les Algonquins, les Atikameks, les Cris, les Huron-Wendat, les Innus, les Inuits, les Mohawks, les Malécites, les Micmacs et les Naskapis. Combien de tribus autochtones compte-t-on au Canada? Eh bien, les Premières Nations sont l'un des trois peuples autochtones reconnus au Canada avec les Inuits et les Métis. Les Premières Nations comprennent les Indiens inscrits et non inscrits. Selon le recensement de 2021, il y a 1 127 010 Premières Nations au Canada au 16 janvier 2024. Disons, il y avait 1 127 010 Premières Nations au Canada au 16 janvier 2024. Quel est l'ancien nom du Canada? Avant la Confédération, plusieurs noms sont suggérés pour désigner la moitié supérieure de l'Amérique du Nord, dont Albert's Land. Albionora, boréal, comme l'aurore boréale, eh bien, Borealia. Britannia, comme dans Britannique. Cabotia, Colonia, Ephisga, Oshelaga, Norland, comme la Terre du Nord, Supérieur, Transatlantia, comme dans Transatlantique, Tuponia, et la Terre de Victoria, Victoria Land. Et qui étaient les premiers habitants du Canada? Bien sûr, les peuples autochtones. Les Hurons-Wendats de la région des Grands Lacs sont, comme les Iroquois, des agriculteurs et des chasseurs. Les Cris et les Dene du Nord-Ouest sont des chasseurs-cueilleurs. Les Sioux sont des nomades qui suivent les troupeaux de bisons. Venons-en au droit de vote des peuples autochtones. De l'époque coloniale à nos jours, les diverses évolutions du système électoral canadien ont eu des répercussions sur le suffrage, le droit de vote aux élections publiques des peuples autochtones. Bien que le droit de vote soit indissociable de la citoyenneté canadienne, les groupes autochtones, et notamment les Indiens inscrits, n'ont pas tous bénéficié de ce droit historique pour des raisons politiques, socio-économiques et ethniques. Actuellement, les peuples autochtones du Canada, définis au paragraphe 35.2 de la loi constitutionnelle de 1982 comme des Indiens, Première Nation, les Métis et les Inuits peuvent voter aux élections fédérales, provinciales, territoriales et locales. Avant la Confédération, avant la création de la Confédération, l'Amérique du Nord britannique est constituée des colonies du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Canada Ouest au Canada, et l'Ontario et du Canada Est bas, Bas-Canada, Québec. Reprenons bien. L'île du Prince-Édouard, du Canada Ouest, le Haut-Canada, Ontario, et du Canada Est, Bas-Canada, Québec. La Colombie-Britannique n'acquiert le statut de colonie de la couronne qu'en 1858. Avant 1867, en dehors de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, la législation ne refuse pas explicitement le droit de vote aux peuples autochtones. Cependant, les électeurs sont soumis à diverses conditions telles que l'âge, la citoyenneté britannique, la propriété de certains biens et le paiement des impôts. Les Indiens inscrits vivent sur des terres de réserve appartenant à la couronne et perçoivent des rentes conformes aux traités autochtones. Dans les faits, ces obligations les empêchent d'exercer leur droit de vote. Il existe toutefois certaines exceptions à la règle. les Indiens de sexe masculin vivant au Canada Ouest et au Canada Est et répondant aux critères définis par l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette province, 1857, puis par l'acte concernant la civilisation et l'émancipation des sauvages, 1859, peuvent volontairement renoncer à leur statut d'Indien. Un processus désigné sous le terme d'émancipation. Ils peuvent alors voter à condition de respecter les critères existants. Cette législation est conforme à la politique d'assimilation en vigueur avant la Confédération. Les Indiens sont encouragés à abandonner leurs coutumes ancestrales, à accéder à la propriété et à accepter les responsabilités et les droits civils des sujets britanniques. Selon le point de vue des représentants du gouvernement, les Indiens s'apprêtent à devenir des citoyens. Aucune restriction légale n'empêche les Métis de voter. Ils peuvent participer au processus politique et voter s'ils respectent les conditions élémentaires du suffrage. Quant aux Inuits, ils n'ont pas le droit de vote, dans la mesure où ils vivent dans des régions nordiques placées sous l'autorité et le contrôle politique direct de la compagnie de l'abbé d'Hudson. Après la Confédération, 1867-1938. Au début de la Confédération, le droit de vote au fédéral est assujetti aux exigences provinciales en la matière. La privation du droit de vote provincial entraîne également celle du droit de vote fédéral. Par conséquent, les Indiens inscrits, sauf s'ils s'émancipent volontairement, sont dans l'impossibilité de voter aux élections fédérales. Officiellement, les Indiens sont considérés comme pupilles du gouvernement fédéral, un statut légal proche de celui des mineurs. La loi sur les Indiens de 1876 regroupe les lois concernant les Indiens. Le paragraphe 86.1 introduit le principe de l'émancipation obligatoire, selon lequel tout Indien est automatiquement émancipé lorsqu'il reçoit un diplôme universitaire, qu'il devient membre du clergé, médecin ou avocat. En perdant son statut, un Indien inscrit peut voter au fédéral sous réserve de respecter les critères de propriété. Peu d'Indiens sont concernés par l'émancipation obligatoire. Par conséquent, ils ne sont pour la plupart pas admis à voter au fédéral. au printemps 1885, Sir John A. Macdonald, Premier ministre, présente l'acte du cens électoral. À l'origine, le Premier ministre est prêt à accorder le droit de vote à tous les Indiens, émancipés ou non, aux mêmes conditions que celles applicables aux citoyens britanniques. Cependant, après la rébellion du Nord-Ouest, la loi est modifiée de sorte à exclure tous les Indiens du Manitoba, de la Colombie-Britannique, du Kewatin, des territoires du Nord-Ouest et ceux qui vivent dans des réserves ailleurs au Canada, qui ne possèdent et n'occupent aucun lopin de terre dont les travaux d'amélioration atteignent une valeur minimale de $150. Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'en 1898, date à laquelle le gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, craignant le vote des Indiens qui soutiennent le Parti conservateur, rétablit les dispositions antérieures à l'acte du cens électoral. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, de nombreux autochtones se portent volontaires pour le service militaire au Canada et outre-mer. Dans le cadre de la loi des électeurs militaires de 1917, les Indiens servant dans les forces armées peuvent voter aux élections fédérales jusqu'à leur démobilisation. Ni le public ni les autochtones n'exercent de pression réelle sur le gouvernement fédéral pour généraliser le droit de vote. Cette situation reste inchangée pendant toute la période de la crise économique mondiale des années 1930. Incidence de la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. En 1942, le gouvernement fédéral instaure le comité spécial sur la reconstruction et le rétablissement de la Chambre des communes. L'objectif de ce comité est de procéder à une analyse prospective des conditions économiques, sociales et politiques de la société canadienne de l'après-guerre. L'avènement de l'État-providence en 1942 avec la mise en place de l'assurance emploi, nécessite également l'évaluation des politiques et des programmes existants. Le comité constate que la population autochtone correspond au groupe social le plus négligé dans la société canadienne. Les conditions sanitaires et économiques dans les réserves sont déplorables et les politiques administratives et éducatives mises en place par le gouvernement s'avèrent catastrophiques d'un point de vue culturel. Des organisations pan-autochtones comme la Ligue des Indiens du Canada, The League of Indians of Canada, s'attaque à ces problèmes dans l'entre-deux-guerres. Les anciens combattants autochtones de la Deuxième Guerre mondiale ayant servi avec distinction dans les forces armées canadiennes et s'étant vu par conséquent accorder le droit de vote aux élections fédérales pendant la guerre, espèrent un changement politique et social à leur retour au Canada. Certains veulent étendre le droit de vote à tous les peuples autochtones, voire autochtones, organisations et activisme politique. Comité mixte spécial sur la loi sur les Indiens, 1946-1948. En 1946, le Parlement met sur pied un comité mixte spécial sur la loi sur les Indiens. Des dirigeants autochtones, représentants des associations politiques et les peuples des Premières Nations sont appelés à témoigner. Les avis sont partagés sur l'acquisition du droit de vote aux élections fédérales. Certains, craignant de perdre leur statut d'Indien, leurs droits acquis par traité ou leurs exemptions d'impôts. Après 3 ans d'audience publique, le comité soumet son rapport final en 1948. Celui-ci préconise de passer d'une politique d'assimilation à une politique d'intégration vis-à-vis des Indiens. Dans cette nouvelle perspective, le comité recommande d'accorder aux Indiens le droit de vote aux élections fédérales. Les politiciens se montrent réticents à partager le pouvoir. En mai 1950, le Premier ministre Louis Saint-Laurent consulte les membres de son cabinet sur le droit de vote des peuples autochtones. Walter Harris, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, envoie quant à lui une note de service faisant état de concentrations importantes d'Indiens dans certaines circonscriptions du pays, comme Skeena, Kamloops, Athabasca, Meadow Lake, Churchill, Norquay, Algoma East, Brent-Wentworth, Kenora-Rainy River, Port Arthur et Châteauguay, Huntington-La Prairie. C.D.O., ministre du Commerce, interrompt finalement le processus, craignant que les Indiens qui vivent dans les réserves à proximité de sa circonscription de Port Arthur ne fassent basculer une élection en faveur de la Cooperative Commonwealth Federation, le CCF, CCF. En conséquence, les Indiens inscrits n'ont pas le droit de voter aux élections fédérales pendant les années 1950. Parmi eux, les avis demeurent partagés quant aux avantages possibles. Avec l'élection du gouvernement progressiste conservateur de John Diefenbaker en juin 1957, le paysage politique change. John Diefenbaker s'empresse de nommer James Gladstone, un membre de la tribu des Kainai, gens du sang, visé par le traité numéro 7 dans le sud de l'Alberta, au Sénat. James Gladstone devient ainsi le premier autochtone membre du Parlement canadien. John Diefenbaker se consacre par la suite à diverses formes administratives et politiques. Acquisition du droit de vote par les Inuits, 1950. En 1950, les Inuits acquièrent officiellement le droit de vote aux élections fédérales. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont aucun moyen de l'exercer, étant donné qu'ils vivent dans des communautés isolées. Dans les faits, les Inuits sont dans l'incapacité de voter jusqu'à ce que des urnes de scrutin soient installées dans un plus grand nombre de communautés inuites en 1962. C'est pourquoi 1962 est souvent désigné comme l'année où les Inuits acquièrent le droit de vote. Acquisition du droit de vote au fédéral par les Indiens inscrits, 1960. Dans la salle du conseil de Hiawatha, à l'occasion d'une élection partielle fédérale, le premier ministre John Diefenbaker, ardent défenseur des droits civils, critiquant depuis plusieurs années l'administration en matière d'affaires indiennes, confie en 1959 à un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes la tâche de mener une étude sur l'administration des affaires indiennes. Dès le début de 1958, le gouvernement de John Diefenbaker s'attelle à la rédaction de la Déclaration canadienne des droits. Cette déclaration, proclamant l'égalité des droits pour tous les Canadiens, il devient difficile de refuser aux Indiens le droit de vote. Le 31 mars 1960, certaines parties du paragraphe 14.2 de la loi électorale du Canada sont abrogés en vue d'accorder le droit de vote aux élections fédérales aux Indiens inscrits. les membres des Premières Nations peuvent désormais voter sans perdre leur statut d'Indien. L'initiative de John Diefenbaker reçoit un accueil mitigé parmi les Indiens. De nombreux autochtones craignent de devoir abandonner leurs privilèges historiques et leur statut d'Indien au profit du droit de vote aux élections fédérales. Pendant longtemps, la participation des autochtones au scrutin fédéral va demeurer faible. Les politiciens s'inquiètent. Eh oui, les politiciens s'inquiètent également de l'admission au suffrage des autochtones. Même s'ils sont en faveur de l'intégration des peuples autochtones dans la société canadienne de l'après-guerre, ils redoutent ses répercussions. Comme Louis Saint-Laurent, John Diefenbaker ne fait pas exception. Il charge discrètement un ancien combattant de la Première Nation de Mistawasis, le chef Joseph Driver, de se rendre dans les réserves de la Saskatchewan, en principe pour exposer les conclusions du comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur les affaires indiennes. En réalité, la mission de Joseph Driver consiste à évaluer la popularité d'une nouvelle formation politique, le Nouveau Parti démocratique, anciennement le CCCF, parmi la population autochtone. En interne, les fonctionnaires de la Direction des Affaires indiennes, comme en 1950, scrutent les circonscriptions fédérales où la population autochtone est importante, dans le but d'évaluer les répercussions du nouveau vote indien. Le nouveau vote indien. Les Inuits sont admis à voter aux élections provinciales et territoriales dans les années 1950. Dans les années 1960, les Inuits sont invités à s'engager dans les structures gouvernementales et administratives locales, telles que les conseils régionaux du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, conseil régional de la région de Baffin. les conseils municipaux et de hameaux et les sociétés de logement. Mais de nos jours, les Inuits constituent la majorité des votants dans les quatre régions nordiques définies suite aux ententes sur les revendications territoriales globales. L'Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut. En outre, le territoire du Nunavut, tel que défini par la loi sur le Nunavut de 1993, est devenu une entité constitutionnelle le 1er avril 1999 et constitue un autre exemple des résultats obtenus par l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Droit de vote des femmes autochtones. Les questions liées au colonialisme et à la discrimination fondée sur le sexe pèsent lourd dans l'accès au suffrage des femmes autochtones, faisant partie des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le processus d'acquisition du droit de vote est associé à l'émancipation volontaire ou non. Autrement dit, les femmes autochtones peuvent bénéficier des droits de vote et de citoyenneté canadienne au détriment de leurs droits ancestraux. Les femmes autochtones et le droit de vote, c'est à voir. Vote aux élections provinciales et territoriales. Au même titre qu'aux élections fédérales, les Métis peuvent voter aux élections provinciales s'ils répondent aux critères d'âge et de propriété foncière. À divers moments après la création de la Confédération, toutes les provinces, à l'exception de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, adoptent des lois visant, d'une manière ou d'une autre, à empêcher les Indiens inscrits de voter. Cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, les Indiens inscrits ont le droit de voter dans toutes les élections provinciales et territoriale. En Colombie-Britannique 1949, au Manitoba 1952, en Ontario 1954, en Saskatchewan 1960, au Nouveau-Brunswick 1963, à l'île du Prince-Édouard 1963, en Alberta 1965 et au Québec 1969. Dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon 1960. Répercussions de la Charte des droits et libertés, 1982. Le suffrage universel aux élections provinciales et fédérales est inscrit au paragraphe 3 de la Charte des droits et libertés de 1982, qui stipule que tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. Cette disposition s'applique aux membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Autonomie gouvernementale des Premières Nations. La législation fédérale sur les Indiens de 1869 et de 1876 forme le fondement de la gouvernance des Premières Nations. Les pouvoirs des chefs et des conseils n'ont cessé de croître au fil des ans. Dans les dernières décennies, plusieurs modèles d'autonomie gouvernementale sont apparus. Selon des sources provenant d'affaires autochtones et du Nord Canada, environ 235 Premières Nations au Canada organisent des élections dans le cadre de la loi sur les Indiens et du règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens. Parmi ces Premières Nations, 38 sont considérées comme autonomes, alors que les autres choisissent leurs dirigeants en fonction du processus de sélection traditionnel ou propre à leur communauté. La loi sur les élections au sein de Premières Nations entre en vigueur en 2015. Les Premières Nations évaluent à l'heure actuelle si ce nouveau système électoral répond à leurs besoins. Élections fédérales de 2015. D'après certaines sources, la participation des votants à l'élection fédérale de 2015 dans certaines communautés autochtones était en hausse de 270%. Le nombre de candidats issus des Premières Nations atteint le chiffre record de 54. 10 autochtones sont élus à la Chambre des communes, dont 8 sous la bannière libérale et 2 sous celle du MPD. 2 sont désignés comme ministres. Jody Wilson-Webold, ministre de la Justice, et Hunter Tutu, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Alors que certains pensent que l'élection fédérale de 2015 fait la preuve de la force électorale des peuples autochtones au Canada, d'autres, parmi eux, s'inquiètent. Ils s'inquiètent du fait que le suffrage aux élections fédérales ne leur rapportera pas la souveraineté, la compétence et le droit à l'autodétermination qu'ils recherchent. Importance. Il aura fallu attendre 84 ans après la création de la Confédération pour que les Indiens inscrits et d'autres groupes d'Autochtones du Canada obtiennent le droit de vote. Aujourd'hui, les peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits, ne font pas que voter. Ils interviennent également dans les politiques locales, territoriale, provinciale et fédérale. L'histoire du droit de vote des peuples autochtones au Canada montre combien les concepts de citoyenneté en termes de sexe, d'ethnicité et de classe sociale sont de plus en plus ouverts à tous. Cela montre également que l'obtention du droit de vote n'a pas permis de résoudre les questions socio-économiques et sociopolitiques cruciales comme les conflits concernant les titres fonciers et le contrôle des ressources. Le droit de vote des peuples autochtones s'inscrit dans une discussion plus large sur la citoyenneté canadienne, la souveraineté et les droits des autochtones.
Dieu voulant. Dieu voulant.
Merci d'avoir été à l'écoute de Voix autochtones. C'était Valérie et Henri. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous nous retrouvons dans 6 jours et 23 heures.
Ok, c'est un plaisir.
Les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie. le meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'était regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang.
Merci à vous tous et toutes qui avez fait de ce 48e anniversaire un succès éclatant. Merci à tous les membres de la station, à tous nos auditeurs et auditrices, aux parents et amis. 102.3 mille fois, merci.
Je vous demande pardon.
Mille merci, chers frères, et à très bientôt.
Mesdames, messieurs, nous nous reverrons dans 6 jours et 23 heures, Dieu voulant. D'ici là, prenez le temps de vous écouter. Plus l'on s'écoute, mieux l'on s'entend.
Il y a du sang sur la route qui mène à la tour. Il y a du sang.
Un homme qui appelle ses amis à un festin ne le fait pas pour les sauver de la faim. Ils ont tous de la nourriture dans leur propre maison. Lorsque nous nous rassemblons au village, au clair de lune, ce n'est pas à cause de la lune. Chaque homme peut la voir dans sa propre cour. Nous nous réunissons parce que c'est bien de le faire. Continuons donc avec l'esprit d'équipe et profitons du pouvoir de la solidarité. Si nous sourions ensemble, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de problème, mais parce que nous sommes plus forts que les problèmes. Ensemble, nous vaincrons. Nous vaincrons.
Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi, je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Devant cette absence d'humilité, ma faiblesse est dans ma vanité. Et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières.
Aimez-vous les uns les autres. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit. Les blessures qui sont les nôtres, c'est le pouvoir.
Un vent nouveau souffle sur le compas. Il vient de Miami. Il est fort et fait un vacarme assourdissant. Les gens accourent, croyez-moi, il y a de la joie. Vacarme, de son vrai nom, est à Montréal le 24 mai à partir de 22h à la salle Le Carlton Signature, 88 60 Langelier à Saint-Léonard. Faites du bruit de la nouvelle, un vacarme. Vacarme, le groupe de Kenny Demang est à Montréal le 24 mai et pour pas cher, après son premier album très bien reçu, $50. À la porte, $60 et 80 en VIP, sur Eventbrite et dans les commerces habituels. Deux invités sont de la partie, le groupe Checké de Montréal et Armstrong Jeune featuring sur le premier album de Vacarme. Information 514-661-0981, 722-3333, 292-4524. Commodité par Cam Transfer, Marcus Poirier, Maître Suzy Jean Coutère et Steve Anna.
Emissão Conversa Fiada com Elizabeth Martins Carreiro
e Paulo Lourenço.
Convidados, discos pedidos, cultura
e a rúbrica sobre queijo e vinho.
Todas as sextas-feiras,
das 18 às 20 horas,
na Rádio Centreville 102.3 FM.
Alors, c'est un entrepreneur général qui rénovait salle de bain, cuisine, plancher et lui posait céramique, liguin, charpentier pour plomberie, peinture. Sous besoin agrandir espace là, sous voulez déménager et nettoyer espace là en profondeur, la bon service. Si nous besoin planifier un enterrement pour un proche qui Haïti, relez Kalos dans 514-577-1746. Sur WhatsApp, c'est même numéro 514-577-1746. Kalos là pour bon service.
Notas de Live cá, segunda e quarta-feira, das 18 às 20, na Rádio Centreville 102,3 FM. Notas de Live cá, notícias, convidados, crónicas, entrevistas, boa música e boa companhia. Pode também ouvir-nos no www.radio-centreville.com ou ainda nas nossas páginas Facebook, em direto ou em diferido. Para se informar, Notas de Live cá deve escutar. Rádio Centreville 102,3 FM, a única rádio comunitária multicultural e multilíngua do Grande Montreal.